Donc prions et après ça on lit notre verset pour aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur d'être présent parmi nous et merci pour tout ce que tu as pourvu à chacun de nous tout au long de cette semaine. Merci de nous avoir rappelé ta grâce, ton amour à notre égard et de nous avoir rappelé Seigneur le prix qui a été payé pour notre salut. Merci Seigneur pour les plans, les projets de paix, de salut, de réussite, de succès, de bonheur que tu avais formé pour nous de toute éternité. Merci Seigneur d'avoir fait preuve de patience à notre égard, afin Seigneur de nous donner le temps de venir à toi, de ne pas avoir fermé le livre, de ne pas être passé à un autre chapitre, mais de nous avoir accordé Seigneur d'entendre ta voix et d'avoir pu Seigneur ouvrir nos vies à ta présence, afin, Seigneur, que tu sois notre Seigneur et notre Sauveur. En retour, Seigneur, nous voulons aussi, de notre côté, être des porte-voix pour toi, être des témoins pour ton royaume, et contribuer aussi, Seigneur, à faire avancer l'œuvre qui est la tienne, faire avancer ton évangile, et permettre, Seigneur, à d'autres de te connaître comme nous t'avons connu. Ce matin, Seigneur, nous voulons tout simplement te demander de nous visiter, de nous instruire, de nous parler. Et que ce que nous allons partager aujourd'hui nous habite tout au long de cette journée. Et que cela produise un fruit qui t'est agréable et qui dure jusque dans l'éternité. Que toute la gloire, que tout l'honneur te revienne à toi et strictement qu'à toi. Non pas à nous la gloire, mais à toi, Seigneur. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, Jean 3, 16, un grand classique. Je vais quand même relire à partir du verset 14 et je vais aller donc jusqu'au verset 18. Verset 14 nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je répète le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tout au long de cette semaine, on a effectivement médité sur le verset le plus commun, le plus connu de toute la chrétienté, verset qu'on apprend à l'école du dimanche lorsqu'on est tout enfant, verset qu'on utilise lorsqu'on parle à quelqu'un de Jésus, lorsqu'on essaie d'amener quelqu'un vers le Seigneur, c'est souvent le verset que nous utilisons. À juste titre, parce que ce verset explique en quelques mots le plan du salut et explique en quelques mots la bonne nouvelle que représente le salut accordé à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on voit cette dernière partie, mais qu'il est la vie éternelle. Lundi, on a vu, bien sûr, car Dieu a tant aimé le monde, un monde qui est réfractaire à lui, un monde qui se tourne dos à lui, un monde qui critique son leadership, un monde qui veut prétendre que Dieu veut sa mort, un monde qui méprise aussi l'attention et la grâce de Dieu. Mardi, on a vu qu'il a donné son Fils unique, un Fils qui représentait tout ce qui était nécessaire au salut de l'humanité, un Fils qui a été donné en toute connaissance de cause, sciemment, délibérément, un Fils qui a été donné pour le bien de l'humanité, même si l'humanité ne le recevaient pas. Un fils qui s'est donné comme le paiement dû pour le rachat ou pour la grâce, pour le salut de l'humanité. Mercredi, on a reparlé de la question de quiconque croit en lui. Donc, on a essayé d'expliquer ce que voulait dire croire. Et je vous répète les quatre grands points de ce que croire veut dire. Croire, c'est croire que c'est une vérité absolue. Le fait de croire en Dieu, c'est croire que cela est une vérité absolue. En être persuadé, en deuxième point, sans la moindre hésitation et sans le moindre doute. Troisièmement, croire veut aussi dire que si j'ai cru véritablement, j'adopte aussi une vie en accord avec cette même vérité. Je ne peux pas croire en Dieu et continuer à vivre dans le péché. Je ne peux pas reconnaître Jésus comme mon Seigneur et continuer à vivre dans un type de vie qui n'élève pas son nom. Et enfin, croire, c'était mettre sa totale confiance dans notre Sauveur. Pas comme dans un essai ou dans une tentative, mais dans un engagement permanent. Jeudi, on a vu que Dieu ne voulait pas que nous périssions, que son désir pour nous, son objectif, c'était de nous éviter de périr, que nous sommes déjà condamnés en tant que pécheurs, que le jugement a déjà été prononcé, mais qu'il vient nous gracier, nous les condamnés que nous étions, il vient nous donner sa grâce, comme quelqu'un qui passe devant une cour, qui est jugé coupable d'un crime, d'un méfait, et quelqu'un en autorité, avec le droit nécessaire de le faire, vient accorder une grâce à ce condamné. Et ici, cette grâce, on a rappelé qu'elle n'était pas gratuite, mais que cette grâce a coûté la vie de notre Seigneur et de notre Sauveur, et que cette grâce a eu un prix important à être payé avant qu'elle ne soit dispersée et présentée à l'humanité, dont à nous qui sommes devenus enfants de Dieu. L'objectif était de nous soustraire aussi à la condamnation, comme on l'a vu hier ou avant-hier. Donc Dieu voulait nous empêcher d'avoir le poids de la condamnation qui reste de façon permanente sur nous. On n'a plus à vivre avec la condamnation et la culpabilité, mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. On a expliqué ce qu'était le drame du terme « périr », et qui voulait dire que pour le restant de l'éternité, c'est pas qu'on mourait et qu'après ça on n'existait plus, mais l'enfer, c'est ce lieu où nous demeurons pour le restant de l'éternité, exclu totalement de la présence de Dieu, exclu totalement de ressentir cette présence qui nous rassure et qui nous réconforte encore aujourd'hui. Et que c'était peut-être le drame le plus terrible de la situation du pécheur. Et on a vu finalement que croire était la seule voie de salut. Bien sûr, croire selon les préceptes et selon les critères qu'on a énumérés le jour d'avant. Et aujourd'hui, mais qu'il est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Permettez-moi simplement de revenir sur un point important, le mot « quiconque » qu'on mentionnait il y a quelques jours, et qui voulait dire que, oui, le salut est offert à tous, mais ça reste une décision totalement individuelle. Mon père ne pouvait pas prendre cette décision pour moi. Mon pasteur ne pouvait pas prendre cette décision pour moi. Je ne peux pas prendre cette décision pour mon épouse. Un papa ne peut pas prendre une décision envers Dieu pour son fils ou pour sa fille. On ne peut le faire que pour sa propre personne. Et Dieu voulait que moi, j'ai la vie éternelle. Le mais veut dire que, oui, nous étions vers la voie de la perdition, vers la voie de la condamnation éternelle, mais Dieu a suscité une autre option. Nous étions morts, mais Dieu avait déjà comme objectif de nous donner la vie. Et de nous donner la vie, en fait, c'est de nous faire passer de cet état de mort que nous étions spirituels à cet état de vivant devant le regard de Dieu et dans l'esprit même de Dieu. Donc Dieu avait depuis toujours le salut de ta personne en vue et en pensée. Avant même que tu ne sois créé, avant même que tu n'existes, avant même, la Bible va dire à propos de Jérémie, qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà établi pour être prophète des nations. Je dirais qu'à ton sujet et à mon sujet, avant même qu'on ne soit formé dans le sein de notre mère, Dieu avait déjà notre vie en pensée et Dieu avait déjà des plans pour nous. Et le plan principal de Dieu pour notre existence était effectivement que nous venions au salut, que nous venions à la connaissance de Christ et que nous soyons sauvés. Alors, quelle que soit ta situation aujourd'hui, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans ton cheminement avec Dieu, que tu l'aies reconnu, que tu l'aies rejeté, que tu lui sois favorable ou que tu sois contre lui, Dieu a quand même comme plan pour toi le salut. Dieu avait quand même pour objectif pour toi le salut. Et voilà pourquoi il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus, pour te sauver. Que tu le reçoives ou que tu le rejettes, que tu l'acceptes ou que tu le repousses, ce Jésus a quand même été offert. Il a quand même payé tout le prix nécessaire en mourant sur la croix pour toi et pour moi. Et ici, on nous dit, mais qu'il est la vie éternelle. Et ici, le verbe avoir veut dire que nous qui étions morts, Dieu dépose la vie à notre portée. Le terme avoir, c'est le terme écho en grec. E-C-H-O. Je répète, E-C-H-O. Le verbe avoir, qui veut dire remettre, qui veut dire placer en main propre, prendre, posséder. C'est comme si Dieu dit, je vais faire tout ce qui est nécessaire pour mettre à ta portée, à la portée de tes mains, le salut que j'ai pour toi. Je vais mettre devant toi le salut et la seule chose que tu auras à faire, c'est de le saisir, de t'en accaparer. L'image qui me vient à l'esprit, c'est un peu cette image de la femme à la perte de sang qu'on a étudiée il y a déjà quelques semaines et qui va s'approcher dans la foule en disant, si je peux toucher simplement le bord de son vêtement, assurément, je serai guérie. Et elle va s'introduire dans la foule, elle va s'immiscer dans la foule, se faufiler jusqu'à être aux abords de Jésus et elle va toucher le bord du vêtement de Jésus et la Bible nous dit qu'elle va être guérie de façon instantanée. C'est un peu cette même idée que le salut nous est accessible à portée de main pour que personne d'entre nous ne puisse dire que ce salut était trop loin, trop difficile à obtenir. Et que personne ne puisse non plus dire, j'ai eu à travailler pour être sauvé. Plusieurs vont dire, il serait beaucoup plus juste, humainement parlant, c'est la pensée du moins, il serait beaucoup plus juste si nous avions quelque chose à faire pour racheter nos fautes. En tant qu'humain, très souvent, on aimerait être appelé à avoir, à faire un sacrifice, à subir une certaine douleur à exécuter certaines actions qui nous permettraient d'arriver au salut. Mais j'aimerais vous rappeler, comme j'ai eu l'occasion de le faire à quelques reprises depuis déjà plusieurs semaines, il n'y a pas une manière plus injuste que le salut par les œuvres. Il n'y a pas une méthode de salut plus injuste que celle-là. Pourquoi? Parce que disons que le salut s'acquérait ou s'acquérait par le fait de donner beaucoup d'argent. Si je suis très riche, donner beaucoup d'argent ne représente strictement rien pour moi. Mais si je suis très pauvre, si je suis indigent, alors donner beaucoup d'argent m'est totalement impossible. Et ici, ça serait donc une injustice. Ça veut dire que le salut serait facilement accessible à celui qui est riche, mais difficilement accessible à celui qui est pauvre. Disons que le salut s'obtenait en gravissant l'Everest. Alors pour quelqu'un qui est bien en forme, qui est bien équipé, qui est bien entraîné, gravir l'Everest, même si c'est difficile, c'est quand même plus simple que pour quelqu'un qui est néophyte et qui n'a aucun entraînement et aucune connaissance de l'escalade. Alors là encore, ça serait plus facile pour celui qui est un montagnard que pour celui qui est un citadin. Si le salut était de donner quelque chose qui nous est cher, on va dire, je ne sais pas, abandonner sa voiture. Dieu dit, c'est pas ce qu'il dit, mais disons que Dieu disait, le salut s'obtient lorsque tu abandonnes ta voiture. Ben, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes pour qui ça serait très douloureux d'être sauvé. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça voudrait rien dire. Je sais que le pasteur André, pour lui, un véhicule, c'est simplement, et il le dit régulièrement, c'est un moyen de transport pour aller du point A au point B. Mais il y a beaucoup d'hommes où le véhicule est un prolongement de leur propre personne, et quand il se passe quelque chose avec leur voiture, c'est tout leur être qui s'en ressent. Donc pour quelqu'un comme le pasteur André, être sauvé en délaissant la voiture, ce serait très simple. Mais pour quelqu'un qui affectionne beaucoup sa voiture et qui devait la laisser, ben ça serait difficile. Alors le salut par les actes est injuste dans ce qu'il demanderait à certaines personnes quelque chose qui est facile, alors que pour d'autres, ça serait compliqué. Voilà pourquoi le salut devait être amené par une source totalement neutre et identique à tous, ou identique pour tous. Et voilà pourquoi Jésus est la seule et unique voie de salut. Ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, exige chez toi, chez moi et chez le restant de l'humanité une même chose, croire en lui, avec ce que croire, bien entendu, veut dire et qu'on a déjà expliqué. Il n'y avait pas de moyen plus juste pour Dieu de nous sauver. Il n'y avait pas une voie de salut plus équitable, plus égalitaire, plus juste pour l'ensemble de l'humanité que celle que Jésus a accomplie. Et oui, je sais, ça va contre nature pour nous. Pour nous, être sauvé devrait impliquer un coût. J'aimerais te rappeler que ce coût-là a été défrayé par Jésus. Ce coût-là, le prix du salut, a été payé par Jésus. Mais Jésus te l'offre gratuitement et il te l'amène sur un plateau d'argent devant toi. Et le terme « avoir » veut simplement dire qu'il est à portée de main pour que tu le saisisses. Jésus a déposé le salut devant toi et la question est, est-ce que tu vas le saisir? Est-ce que je vais le saisir? Je ne peux pas le saisir pour mes parents, je ne peux pas le saisir pour mes enfants, je ne peux pas le saisir pour mes amis, je ne peux pas le saisir pour mon épouse, je ne peux le saisir que pour moi-même. Et cette même occasion de salut t'est tendue, t'est offerte aujourd'hui. L'autre terme important, c'est vie, la vie, dans vie éternelle. Le terme vie, le pasteur André l'a abordé ce lundi, c'est le terme Zoé, Z-O-E, comme le prénom qu'on retrouve pas très souvent, mais qu'on retrouve quand même dans la gente féminine. Zoé qui veut dire qui a la vitalité, qui est animée. Donc Dieu, le plan de salut, c'est de nous faire un don, de nous faire cadeau, d'une vitalité et d'être maintenant animé. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que nous étions morts. Nous étions morts à nos propres péchés. Nous étions morts à cause de nos propres péchés et que Dieu nous offre la vie. Cette vitalité, on peut la voir illustrée dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Du verset 1 au verset 7, je vais prendre quelques instants pour vous le lire. Je répète pour ceux qui prennent des notes ou qui ouvrent leur Bible, Éphésiens 2, du verset 1 au verset 7, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, il est en train de dire que nous étions morts à cause des péchés qui découlent à la base du diable. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, nous a ramenés à la vie. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a donné la vie en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités en Jésus-Christ. Il nous a amenés à être vivants, nous qui étions morts, à travers la mort de Jésus. Et je répète encore, c'est la seule et unique façon d'être vivant spirituellement. C'est la seule et unique façon d'être sauvé tel que la parole de Dieu nous l'enseigne. Dernier point pour aujourd'hui, la vie éternelle. La vie éternelle. Tournons dans Galates au chapitre 2, le verset 20. Et vous allez comprendre ce que veut dire la vie éternelle. Galates 2, le verset 20. Je répète, Galates 2, 20. Je répète parce que parfois, il y a des gens qui ont de la misère à voir où est-ce que j'en suis rendu dans mes versets. Donc, Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Différents points importants dans ce verset. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Trop souvent, on a cette pensée de la vie éternelle que c'est notre vie personnelle que Dieu prolonge éternellement. Le mot éternité, le mot éternel, ne veut pas dire qu'il ne termine pas. Oui, ça ne termine pas, mais ça veut dire aussi qu'à la base, il n'a jamais cessé d'exister. Alors que nous sommes morts et alors que nous avons connu un début, un démarrage à notre vie, nous n'avons pas existé éternellement. Nous existions éternellement dans la pensée de Dieu, oui, mais en tant qu'être, nous avons connu un début. Donc, nous pouvons peut-être être perpétuels parce que Dieu ferait en sorte que nous ne mourrons plus. Donc, on se perpétue dans le restant de l'éternité. Mais ça ne fait pas de nous que nous ayons la vie éternelle. L'éternité ou le facteur éternel de la vie, ça veut dire qu'il n'y a ni début, ni fin, ni début, ni fin. Et il y a un seul moyen pour nous d'avoir ni début, ni fin, c'est que celui qui vit en nous soit éternel. Alors la vie éternelle qui nous est donnée, c'est en fait la vie de Jésus qui va être vibrante, vivante, vivifiée en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la vie éternelle, c'est d'avoir Christ vivant éternellement en nous. Lorsqu'on nous invite ou lorsqu'on nous donne la vie éternelle, on nous donne en fait la vie éternelle de Jésus. Oui, nous allons être dans sa présence pour le restant de l'éternité. Mais nous allons être dans sa présence pour le restant de l'éternité parce que la vie de Jésus nous habite. Contrairement à ceux qui l'ont rejeté et qui sont déjà morts. Dieu ne fait pas en sorte que notre vie devienne éternelle, mais Dieu fait en sorte que la vie éternelle de Jésus vienne nous habiter. C'est le seul moyen que toi et moi, effectivement, ayons la vie éternelle. Reprenons le verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ » et on a parlé hier du baptême, s'identifier avec Jésus dans les eaux du baptême, donc s'identifier avec sa mort, s'identifier aussi avec l'ensemble du peuple de Dieu, le faire dans une cérémonie qui est effectivement une cérémonie publique, au même titre où Jésus est mort publiquement pour l'ensemble de l'humanité. Nous nous identifions aussi à lui de façon publique à travers les eaux du baptême. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis encore dans ce corps qui est faible, dans ce corps qui est mortel, je vis quand même dans la foi en ce Fils de Dieu, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul était en train de dire, la vie éternelle, je l'ai reçue parce que Christ habite en moi. Par contre, je suis encore dans un corps qui est mortel et à moins que Christ ne vienne nous chercher et enlever son Église et qu'à ce moment-là, notre corps devienne un corps glorifié qui dure pour l'éternité. D'ici là, ce corps qui est le mien, ce corps qui est le tien, est mortel. Mais à l'intérieur de moi, je vis avec cette foi, je vis avec cette assurance, je vis avec cette confiance. N'oublions pas ce qu'on a dit de croire, que c'était avoir cette confiance, avoir cet abandon dans notre Seigneur Jésus. Donc, je vis avec cette foi dans le Fils de Dieu qu'il m'a effectivement aimé, qu'il s'est effectivement livré lui-même, donné délibérément lui-même pour mon salut. En fait, ce verset de Galates 2:20 est un parallèle avec Jean 3:16, où on voit effectivement comment s'est manifesté le salut à travers la mort, la résurrection de Jésus et à travers cette vie qu'il répand pour toi et pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? On a vu cette semaine que Dieu t'a effectivement profondément, profondément, profondément aimé. Il t'a aimé d'un amour qui ne peut même pas être quantifié. Il t'a aimé au point de donner son Fils unique, son Fils qui remplit parfaitement les critères pour le salut de l'humanité. Lui, Dieu fait homme parfait, sans tâche, sans iniquité, qui offre sa vie en sacrifice pour ton salut. Et que le seul moyen d'être sauvé, c'est de croire effectivement à l'efficacité, à la suffisance de ce salut, de ce sacrifice pour ton salut et pour mon salut. Et de croire en lui voulait dire de s'engager auprès de lui, de lui confier notre vie, de lui abandonner notre vie et que lui nous dirige dans ce passage qui est ici-bas sur terre, afin que nous ne périssions pas, afin qu'on ne meure pas tout au long de l'éternité privés atrocement de la présence de Dieu, mais que nous puissions vivre pour toujours dans sa présence, ayant été habités par la vie régénératrice de Jésus en nous. Alors j'espère que cette semaine, tu as compris comment on pouvait être sauvé. J'espère que cette semaine, ça t'a permis de t'interroger toi-même à savoir où est-ce que tu en es dans ce salut. Est-ce que tu as reconnu effectivement Jésus comme ton sauveur? Est-ce que tu lui as demandé le pardon pour tes péchés? Est-ce que tu as confessé qu'effectivement, tu n'es qu'un pécheur, une pécheresse et que tu as besoin de ce salut? Est-ce que tu reçois ce sacrifice qu'il a accompli comme étant totalement suffisant pour ton salut? Que tes œuvres, bien qu'elles soient bien et bonnes, ne peuvent pas t'amener près de Dieu et ne peuvent pas t'amener au salut, mais que simplement ce que Jésus a accompli sur la croix pouvait te sauver. Alors ce matin, j'aimerais prier avec toi si effectivement tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si tu ne lui as pas confié ton existence, si tu ne lui as pas encore demandé pardon pour tes péchés. J'aimerais t'introduire dans une courte prière. Je vais simplement dire quelques mots et je vais t'inviter, si c'est ton désir de demander pardon à Dieu et de le recevoir comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, simplement répéter après moi ces quelques mots. Seigneur, j'ai entendu ta parole cette semaine et je sais que j'ai péché et je sais que je suis pécheur, que je suis pécheresse et je sais que j'ai besoin de toi. J'ai compris que la mort de Jésus à la croix est la seule voie de salut pour moi. Tu m'as aimé à un tel point qu'avant même que je ne te connaisse, tu avais déjà offert ton Fils en sacrifice pour le pardon de mes péchés, pour le salut de ma personne. Merci. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es la seule source de salut. Je crois que ce salut qui nous est offert est parfait. Et je le reçois comme une grâce de ta part. Seigneur, je comprends aussi que si je crois, je ne peux continuer à vivre dans mon péché. Alors Seigneur, j'abandonne ma vie passée, ce qui ne te glorifie pas, ce que tu condamnes, afin de vivre une vie en accord avec ta parole. Aide-moi, Seigneur. Dirige-moi. Soutiens-moi. Merci parce que tu m'as aimé et que tu mets ta vie en moi. J'ai compris que par mon péché, j'étais mort. Aujourd'hui, je reçois ta vie, Jésus. Merci. Dirige-moi dans le restant de mon chemin. Je prie de t'être fidèle jusqu'à mon dernier souffle et de vivre le restant de ma vie ici-bas pour toi, afin d'être dans ta présence pour l'éternité. Merci d'être mon sauveur. Merci d'être mon Seigneur. J'ai prié en ton nom, Jésus. Amen. Je suis content de la prière que tu viens de faire. Et la Bible nous dit que lorsqu'un pécheur se repent ici-bas sur terre, il y a beaucoup de joie au ciel. Et je suis convaincu qu'au ciel, il y a actuellement beaucoup de joie pour la prière que tu viens de faire. Alors sur ce, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur puisse vous bénir tout au long de cette journée. On vous rappelle notre rendez-vous ce soir à partir de 19h, un temps de prière et un temps de requête. Et pour ceux qui ne peuvent pas être là, notre prochain rendez-vous sera dimanche matin à 10h en direct depuis l'église où on diffusera notre assemblée, une assemblée qui se fait encore à huis clos. Sous le respect des normes de confinement et de distanciation sociale. Donc, on vous attend dimanche matin à partir de 10h sur tous les canaux habituels de l'Église, que ce soit la page web de l'Église, le site Internet, que ce soit la page Facebook, que ce soit le site YouTube, hein, ou que ce soit hein, aussi par Zoom au niveau du téléphone. Donc, vous avez toutes ces informations sur la page web de l'Église qui vous sont accessibles. Alors, sur ce, passez une bonne journée pour ceux qu'on revoit tout à l'heure à 19 h pour le temps de prière. Bonne journée et à tantôt. Pour les autres, on se revoit très bientôt, dimanche ou la semaine prochaine pour notre temps, encore une fois le matin de bénédiction matinale. Alors, passez une bonne journée dans la présence du Seigneur et on se revoit, vous me revoyez bientôt. Que Dieu vous bénisse.